Du lundi au vendredi à 14h, c'est Culture Science. Aujourd'hui, Planète Terre, Sylvain Kahn.
J'ai toujours rêvé de connaître le futur, de voir comment le monde change, voir les progrès de l'humanité.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Planète Terre, l'émission qui décrypte les enjeux globaux sur France Culture. Comme chaque mercredi de l'année 2015, nous sommes ensemble de 14h à 14h56. Mais attention, à compter de mercredi prochain, le 6 janvier 2016, Planète Terre sera diffusée de 16h à 16h56. Alors pour ce dernier rendez-vous de l'année, en prélude à ce changement d'horaire, je vous invite à une évocation de l'aventure au XXIe siècle.
10 ans après le lancement de la sonde spatiale Rosetta par l'Agence spatiale européenne, l'atterrisseur Philae s'est posé la semaine dernière sur la comète 67P Churyumov-Gerasimenko à plus de 500 millions de kilomètres de la Terre.
This is Mark Watney, and I'm still alive. Obviously. I have no way to contact NASA or my crewmates. But even if I could, it would take 4 years for another manned mission to reach me. And I'm in a hab designed to last 31 days. So, in the face of overwhelming odds, I'm left with only one option. I'm gonna have to science the shit out of this. Okay, let's do the math. I gotta figure out how to grow 4 years worth of food here on a planet where nothing grows. But if I can't figure out a way to make contact with NASA, none of this matters anyway.
L'année 2015 a été fertile en exploration scientifique et spatiale, aussi inédite que spectaculaire. A-t-on pour autant bien relevé que ces aventures de la conquête spatiale se sont passées de vols habités? C'est bien un robot piloté depuis la Terre qui s'est posé sur Chumi, alors que ses vols habités, on vient de l'entendre avec la voix de Matt Damon, extrait de Seul sur Mars de Ridley Scott. Ces vols habités donc sont exaltés par Hollywood, et on pourrait également citer Gravity ou Interstellar. Alors toute la semaine dernière, sur France Culture, nous évoquions nombre de héros et de super-héros. À croire donc, en écho à cette double actualité, que le sentiment d'aventure serait tout entier dans la fiction, dans l'imaginaire et dans des sensations par procuration. Que l'aventure positive du voyage et de la découverte se serait réfugiée dans le discours et la représentation. Ou bien, l'aventure peut-être tient tout entière dans les avancées de la science, avancées de la science donc conceptuelles, spéculatives. On pourrait bien le croire, puisque la science, en tous les cas l'exploration spatiale, ne passe plus par le terrain et par les terres inconnues, alors que l'aventure lui a été si longtemps associée. Alors, l'aventure au XXIe siècle, c'est bien le sujet de Planète Terre cette semaine. Et nous en parlons avec deux invités. D'une part avec Olivier Archambault, qui est président de la Société des explorateurs français, géographe, maître de conférences à l'Université de Paris 8 Saint-Denis et co-auteur de l'aventure Pourquoi faire, paru au Seuil en 2012. Bonjour Olivier Archambault.
Bonjour.
Et bien connu des auditeurs de Planète Terre, puisque vous étiez venu à deux reprises au moins nous raconter vos expériences d'aventurier que vous faites avec un certain nombre de vos étudiants à peu près tous les 4 ou 5 ans. Et puis, nous avons également le plaisir d'être en duplex depuis les studios de France Bleu Isère à Grenoble avec Sylvain Vénère. Sylvain Vénère est historien, professeur à l'Université de Grenoble, auteur de plusieurs ouvrages en écho avec notre sujet du jour. Je citerai notamment « La gloire de l'aventure », »,« Genèse d'une mystique moderne 1850-1940 »,« Rêve d'aventure 1800-1940 », paru chez La Martinière, c'était en 2006. Et puis, dernier ouvrage consacré à ce sujet, « Panorama du voyage 1780-1920 », qui est paru en 2012 aux Belles Lettres. Bonjour Sylvain Vénère.
Bonjour.
Et donc, merci d'être avec nous en duplex depuis Grenoble, où je suppose que vous avez dû être tous un peu surpris par les températures qui ne sont pas vraiment de saison cet hiver, n'est-ce pas ?
Oui, un temps magnifique ici.
Alors, bien entendu, parler de l'aventure au XXIe siècle, est-ce que vous êtes l'un et l'autre, disons, d'accord avec ce que je suggérais dans cette rapide introduction, c'est-à-dire avec le fait que l'aventure aujourd'hui, finalement, a changé de paradigme et que ça ne passe plus tant par la mise en risque qu'un individu pourrait faire en voyageant, en explorant sur le terrain, mais que ça passe plutôt par, on va dire, des explorations qu'on peut qualifier de conceptuelles ou de scientifiques, l'aventure s'étant alors réfugiée dans la fiction. Olivier Archambault, vous qui présidez la Société des explorateurs français, vous devriez être en total désaccord avec ce que je viens de dire.
Eh bien, je suis pas en accord total, effectivement. Non, l'idée, c'est que notre société, aujourd'hui, empêche le fait de se mettre en danger, pour aller vite. L'aventure est par définition humaine et ne peut être qu'humaine. Si elle se traduit par un engagement physique, c'est mieux. Et aujourd'hui, l'aventure spatiale que vous décriviez à l'instant, c'est une aventure collective, mais c'est une aventure de chercheurs, de mathématiciens, de physiciens, mais en aucun cas, ce n'est plus une aventure humaine de cosmonautes, comme on l'entendait, ou quand quelqu'un partait découvrir de nouveaux territoires, un vrai engagement physique. Là, en cela, effectivement, ça a beaucoup changé.
Mais vous iriez jusqu'à dire, Olivier Archambault, qu'il n'y a plus du tout aujourd'hui, d'exploration au sens physique, comme vous disiez à l'instant ?
Ah si, justement, il y en a plein. Et il y en a plein, mais ce ne sont plus dans les mêmes cadres. Il y a aujourd'hui des dizaines et des dizaines de chercheurs, je pense notamment à ceux du Muséum d'Histoire Naturelle de Paris, qui tous les mois découvrent de nouvelles espèces en forêt tropicale. Il y a des spéléologues qui tous les jours découvrent des salles énormes, comme à Bornéo par exemple. Ça, on est vraiment dans l'aventure physique encore. Pour bonne part.
Et ça, c'est ce qu'on appelle des expéditions scientifiques.
Ce sont des expéditions scientifiques. Alors, c'est un peu différent de l'aventure. C'est-à-dire, l'expédition scientifique n'est pas forcément aventurière, si on peut s'exprimer comme cela.
Qu'est-ce que vous en pensez de votre côté, Sylvain Venner, vous qui pouvez mettre en perspective les explorations et les explorateurs d'aujourd'hui avec ceux du passé proche ?
Ben, comme dirait Olivier Archambault, je suis pas en accord total avec vous non plus, mais pour une raison très différente, c'est que si on fait une histoire un peu longue de ces expéditions scientifiques, on aurait beaucoup de mal à imaginer que, je ne sais pas moi, à la fin du Moyen-Âge, au début des temps modernes, je ne sais pas moi, Vasco de Gama, Christophe Colomb, étaient des gens qui étaient mus par l'esprit d'aventure. Ça n'est que par une relecture de leur voyage qu'on peut imaginer que l'aventure est une des principales motivations de leur action. C'est toute l'ambiguïté de cette imaginaire de l'aventure qui fait qu'on va plaquer sur des situations historiques extrêmement différentes quelque chose qui est assez précisément situé dans le temps, en réalité. Alors, il est fort probable qu'aujourd'hui, la question se pose dans les termes que vous avez dit, c'est-à-dire qu'on a un peu, parfois, le sentiment que, pour des raisons qui tiennent au progrès technologique, une sorte de confrontation de l'individu avec la nature a disparu, en quelque sorte, et avec elle, toute l'aventure. En réalité, on poursuit à travers, en particulier l'exploration de l'espace, un projet qui est indissolublement un projet scientifique et un projet d'aventure. D'où justement l'espèce de regret que vous pointiez que ce soit fait maintenant par des machines. Et Olivier Archambault a bien raison d'expliquer que dans le même temps, en particulier la spéléologie est un excellent exemple, il y a des individus qui se retrouvent face à la surface, enfin pas à la surface en l'occurrence, mais juste en dessous de la surface de la Terre, se retrouvent dans des situations qui ont été longtemps présentées comme des situations d'aventure. Mais l'aventure n'est pas, comment dire, nécessaire à l'exploration scientifique. Elle n'a pas été depuis, enfin pendant des siècles.
Mais alors, est-ce qu'on peut dire pour autant, hein, j'entends bien ce que vous nous expliquez, Sylvain Venner, à savoir que l'aventure n'est pas nécessaire à l'exploration scientifique, mais à contrario, peut-on dire que pendant un certain temps, et même encore aujourd'hui, l'aventure s'est confondue avec l'exploration scientifique ou l'exploration tout court?
C'est très compliqué. On pourrait dire, d'une certaine façon, évidemment non, puisque la façon dont l'aventure se constitue comme modalité de l'existence au cours des siècles, jusqu'à triompher, disons, dans la seconde moitié du XIXe siècle, c'était pas nécessairement en lien avec l'activité scientifique. Si vous pensez aux premières occurrences du terme aventure, et puis là on vient de rééditer la Don Quichotte dans la Pléiade, ça tombe plutôt bien. Là, il ne s'agissait pas nécessairement dans les romans d'aventure de la fin du Moyen-Âge, dans la façon dont est pensée l'aventure du chevalier, il ne s'agissait pas nécessairement de... Enfin, il ne s'agissait même pas du tout de découvrir quelque chose au sens que la science des 16e, 17e, 18e siècles a donné au terme de découverte.
Olivier Archambault.
Oui, je crois qu'il faut, bien déterminer deux choses. L'aventure en tant que telle, qu'est-ce que c'est pour un homme, l'aventure? C'est différent de parler de science, d'exploration et d'aventure humaine, au sens de la personne. Qu'est-ce qui caractérise le mieux l'aventure? C'est peut-être d'abord un regard sur son époque, c'est-à-dire une sorte de, je dirais, quasi de non-conformisme, d'interroger le réel à un moment donné. C'est aussi, je pense, une aptitude sérieuse au risque, quelque chose qui met en face du danger. Bon, enfin, je crois que c'est un goût fort pour la connaissance. La connaissance, l'apprentissage. Et puis, bien sûr, c'est quelque chose qui permet la liberté d'action. Ça, ce sont des définitions qui me paraissent importantes pour qualifier ce qu'est l'aventure. Maintenant, l'esprit d'aventure appliqué au réel, c'est autre chose. Et je pense que dans notre monde qui est de plus en plus technologique et donc plus d'aventure qu'on pourrait qualifier de virtuelle pour l'homme, puisqu'un robot, c'est de l'aventure virtuelle pour l'homme, là, on passe dans autre chose. On passe dans l'acquisition de la connaissance par procuration, mais ça n'a rien à voir avec le fait d'être un, entre guillemets, un aventurier.
Je vous propose, puisque vous nous invitez à rentrer quelques instants, le temps qu'il le faudra, dans la définition et la caractérisation de l'aventure et de l'aventurier, je vous propose d'écouter la définition qu'en donnait Henri de Monfray.
Je suis parti pour des raisons intimes, très banales, car j'avais jusque-là cherché à être l'homme moyen, le médiocre, qui ne choque personne. Mais arrivé en Afrique, arrivé surtout devant la vie indigène, que l'Européen ignore, non seulement qu'il ignore, mais qu'il stigmatise quelquefois de jugements totalement faux. J'ai voulu voir par l'intérieur ce qui m'enthousiasmait. Je me suis mêlé à eux, j'ai partagé leur vie, et j'ai vraiment cru vivre dans une autre planète, ou plutôt dans un autre temps, car j'ai retrouvé parmi eux l'existence des hommes il y a des millénaires, et peu à peu, je me suis dit, où iront tous ces beaux souvenirs? Où iront tous ces enthousiasmes? Que deviendra cela quand je n'existerai plus? Eh bien, j'ai voulu faire partager tout ce qui faisait la beauté de ma vie à ceux qui sont enchaînés à des tâches fastidieuses, à ceux qui peut-être auraient eu le désir, la volonté, même la capacité de courir l'aventure, c'est-à-dire de vivre une vie où demain est toujours inconnu.
C'est une bonne définition de l'aventure et de l'aventurier. Pour vous, Olivier Archambault?
C'est une excellente définition, d'autant plus excellente que dans le discours que l'on vient d'entendre, il y a à peu près tous les éléments que l'on venait de citer auparavant. Et dans la vie de Monfray, c'est une vie choisie d'aventure. Il quitte sa vie normale, comme il le dit au début de son texte, pour aller bagnauder, vadrouiller, écrire, faire plus ou moins des trafics illicites dans la corne de l'Afrique. Et il va découvrir ce qu'est effectivement l'aventure humaine. Et d'ailleurs, il le dit également, je vais réécrire, parce qu'après il écrit ce qu'il a vécu, au profit d'autres. Ça aussi, c'est une dimension intéressante de l'aventure, c'est le besoin de narrer son aventure.
Le désir de courir l'aventure, c'est-à-dire vivre une vie où demain est toujours inconnu. Pour vous, Sylvain Venner, ça s'inscrit, on va dire, dans une certaine tradition, cette définition que donne Henri de Monfray ?
Oui, absolument. C'est exactement ce que disait Malraux quand il disait que l'aventurier, c'est quelqu'un qui tient dont le chemin n'est éclairé que par la torche qu'il tient dans sa main. Mais en même temps, il faut prendre les choses dans l'ordre. C'est-à-dire le moment. Je n'ai pas la date de l'interview de Monfray.
Moi non plus, figurez-vous. C'est une archive qui a été diffusée dans Témoins de passage sur France Inter le 22 août 2011. Mais c'est une archive non datée. Voilà.
Non. Oui. Alors on peut imaginer que c'est tout de même assez ancien. Je suppose que ça doit être quelque chose qui date des années 50 ou des années 60.
C'est ce que j'aurais dit aussi.
Enfin, c'est assez tardif dans la vie de Monfray. Voilà. Puisque Monfray est né à la fin des années 1870. Donc, il est dans une. Il faut comprendre que quand il dit ça, ce qui est intéressant, c'est peut-être moins ce qu'il dit sur le temps de l'aventure que ce qu'il dit sur le temps de sa propre vie. Il est en train de justifier, manifestement, dans le cadre d'une interview, son œuvre. C'est-à-dire que, en fait, l'homme qui parle à ce moment-là, c'est l'homme qui a écrit ses aventures. Alors certes, il a écrit les aventures qu'il est censé avoir vécues, d'ailleurs que pour une grande part il a vécu, mais enfin c'est dans cet ordre-là que les choses se passent, qui ne correspond pas exactement à ce qu'a été sa vie, puisque en fait quand il part en Afrique à la veille de la Première Guerre mondiale, c'est après une première vie en quelque sorte, qui a été la vie d'un raté social, ce qu'il admet parfaitement, mais aussi la vie d'un raté dans le cadre d'un milieu social qui avait énormément d'exigences, et en particulier des exigences artistiques. Il est le fils du peintre Georges Daniel de Monfray. Henri, il a dans la tête des modèles qu'il ne parvient pas à réaliser en métropole, en quelque sorte, et qu'il va essayer de réaliser ailleurs. C'est pas exactement le même modèle, si vous voulez, qu'un peu plus tard, disons Jack London.
Et d'ailleurs, il explique, explique Sylvain Venner, un peu plus loin dans cet entretien radiodiffusé, archivé par Lina, qu'il a longtemps hésité pour restituer ses aventures entre la peinture et l'écriture. Et puis finalement, il a choisi l'écriture parce que c'est, selon lui, plus accessible au public.
Oui, il y a ça, il y a le fait qu'il n'était peut-être pas non plus un excellent dessinateur, il y a aussi le fait que ce qu'on a dit, ce que lui a beaucoup dit, et le fait qui est une réalité, c'est qu'il se retrouve un petit peu projeté sur les feux de la rampe par Joseph Kessel à la suite du grand reportage que Kessel fait sur les marchands ce que Kessel appelle les derniers marchands d'esclaves dans la Corne de l'Afrique pour Le Matin en 1929. Donc il y a... Il y a un peu tout ça. La première fois que Monfray apparaît, c'est comme, d'une certaine façon, fixeur, comme on dirait aujourd'hui, pour Kessel en Éthiopie. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'il y a, dans son interview, autre chose qui est intéressant, c'est ce second rapport au temps, qui n'est pas seulement l'individu qui se replonge dans son passé, mais c'est aussi celui qui, en tant qu'aventurier, puisque c'est son identité probablement au moment de l'interview, qui explique... que, d'une certaine façon, et on retrouve Don Quichotte, que l'aventure est toujours la dernière aventure, en quelque sorte. C'est ce qu'il dit quand il dit qu'il a vécu des aventures d'un autre temps. Or, cette idée que l'aventurier, c'est celui qui va chercher des émotions devenues impossibles dans la société dans laquelle il vit, c'est quelque chose qui se formalise parfaitement au XIXe siècle, et surtout à la fin du XIXe siècle, et Monfray, à ce moment-là, est l'héritier d'innombrables autres auteurs, et qui est probablement, dans ce que nous on appelle l'aventure aujourd'hui, là, en cette fin d'année 2015, la vérité de l'aventure, en quelque sorte. De la même façon que Don Quichotte est la vérité du chevalier quand il explique que, en incarnant le fait que l'aventure chevaleresque n'est plus possible dans le monde dans lequel il vit. Et cette dimension nostalgique de la geste aventurière, elle est constitutive, je pense, de l'imaginaire de l'aventure, de l'imaginaire moderne de l'aventure.
Olivier Archambault, alors vous qui peut-être ne vous définissez pas comme un aventurier, car vous êtes un universitaire, mais après tout, vous êtes président de la Société des explorateurs français, donc vous pourriez peut-être vous définir, ou on pourrait peut-être vous définir aussi comme un explorateur. Comment vous réagissez aux propos que vient de nous exposer Sylvain Venner ? C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'exploration sans un peu de nostalgie.
Mais Sylvain Venner a totalement raison. Et j'aimerais ajouter quelque chose à cet égard. Quand je regarde les demandes, par exemple, des étudiants d'aujourd'hui en géographie, qui ont soif à la fois d'exploration d'un monde qu'ils peuvent avoir sur Google Earth tant qu'ils le veulent et sur Internet autant qu'ils le veulent, mais qui n'empêche pas, et ça j'en suis très frappé, qui n'empêche pas cette volonté d'aller voir. Moi, je suis extrêmement joyeux de cette affaire. Et quand ils veulent monter des petites expéditions à leur niveau, je ne peux que les encourager à aller voir une réalité qu'ils se forment aussi à partir de leur lecture. Ce que Sylvain Venner dit à propos de cette histoire de l'aventure, de ce ressenti de l'aventure, nous, on le vit tous les jours en tant qu'enseignants en géographie, parce qu'ils ont ce mythe derrière leur demande. Et ça, c'est extrêmement intéressant. Ça veut dire que malgré un monde extrêmement fermé, où le principe de précaution est le roi, et où on dit que les gens sont démotivés, qu'ils sont derrière leurs écrans, etc., il y a, dès qu'on parle de réalité, une mise en face d'un risque certes modéré, mais quand même important, et ils vont aller presque se battre pour réaliser c'est ce qu'on pourrait appeler du mythe, de l'histoire, de l'aventure. Et ça, c'est quand même un bon signe.
Mais permettez-moi de poser une question qui va peut-être vous paraître un peu naïve à l'un et à l'autre, mais quelle différence faites-vous aujourd'hui entre le voyage d'études, auquel vous avez peut-être fait allusion, Olivier Archambault, ou le voyage touristique ? Parce qu'après tout, un célèbre prestataire de tourisme qui s'appelle Terre d'Aventure. Bon, alors, et vous, Sylvain Venner, en conclusion de votre panorama du voyage 1780-1920 que vous avez publié en 2012, aux Belles Lettres, vous écrivez finalement « Le tourisme emporte à tout ». Alors, est-ce que ce mythe dont vous venez de parler, Olivier Archambault, ce n'est pas seulement un mythe, si j'ose dire, et puis quand on croit être un aventurier, en fait, on ferait du tourisme.
Bien évidemment que les possibles allant en se rétrécissant, l'aventurier d'aujourd'hui l'est plus dans sa tête que dans la réalité, bien qu'il y ait encore de nombreuses zones où l'aventure est franchement sérieuse, ne serait-ce que sur les zones grises géopolitiques d'aujourd'hui.
Mais par exemple.
Par exemple, qui sait ce qu'il se passe aujourd'hui dans le bassin du Congo, dans les forêts du Congo ? Absolument personne. C'est une zone quasi de non-droit. On ne sait pas ce qui s'y passe. Qu'est-ce qui se passe dans la grande forêt amazonienne ? Il y a fort à parier qu'il y a des endroits qui soient complètement vides de beaucoup de gens, y compris des meilleurs aventuriers. Donc, on a quand même encore quelques terres, quelques espaces de liberté. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que être aventurier, c'est d'abord un état d'esprit. On peut être aventurier en regardant le monde dans lequel on est et en se mettant peut-être en marge un petit peu. C'est l'esprit d'aventure qui compte. C'est pas l'aventure elle-même.
Sylvain Venner.
Oui, vous avez dit tous les deux beaucoup de choses. Ces voyagistes comme Terre d'Aventure, Nomade d'Aventure, etc. ne sont pas ne sont pas un dévoiement en quelque sorte du tourisme contemporain ou une sorte de retour à des sources glorieuses des pratiques du voyage. Ils sont d'une certaine façon la vérité du tourisme. Si vous prenez les guides touristiques du milieu du 19e siècle, c'est-à-dire le moment où en quelque sorte cet imaginaire du grand tour qui à mon avis était dans le propos d'Olivier Archambault, c'est-à-dire quand on dit qu'on a des étudiants aujourd'hui qui ne se satisfont pas de Google Earth et de tout ce qu'ils voient à la télévision, de ces connaissances incroyables qu'on peut avoir de chez soi sans bouger de son fauteuil et qui veulent voir par eux-mêmes, toucher par eux-mêmes le monde, c'était le projet du Grand Tour. Tel qu'il se formalise à partir du milieu du XVIIe siècle. C'est-à-dire, alors le Grand Tour ne concernait que l'Europe occidentale, mais enfin, cette idée que par les livres, par les estampes. On avait une connaissance du monde qui importait à l'époque pour ces élites-là. Ça n'empêchait pas, et au contraire même, ça justifiait le voyage, parce qu'il se passait quelque chose dans l'expérience sensible qui était de l'ordre de la connaissance, et on avait parfaitement théorisé le fait que le déplacement était nécessaire dans le processus d'apprentissage. Au milieu du 19e siècle, ce qui se passe et qui est un petit peu différent, c'est qu'à partir du moment où on s'adresse plus exactement qu'à des élites qui viennent compléter le cercle de leurs études, comme disait Chateaubriand, on s'adresse à une masse nouvelle de gens qui a pour son voyage un temps limité, c'est-à-dire qu'on part plus pour 2 ans, hein, on part pour quelques semaines, et dans ce laps de temps-là, ce que admettent très très bien les premiers voyagistes, en quelque sorte, qui sont les guides, Baedeker, Johann, etc., et puis après les agences Cook, et puis les agences qui se créent en France, c'est qu'il doit y avoir, dans l'expérience du voyage, une part qui est réservée à l'imprévu. Et on opère, à cette époque-là, quelque chose qui est encore actif aujourd'hui, et qui structure nos comportements en voyage, c'est-à-dire qu'on distingue très très nettement ce qui relève de l'imprévu et qui est ce qu'on doit rechercher, qui est louable, et ce qui relève de l'imprévoyance, qui est condamnable. Et on retrouve dans nos pratiques un partage qui est éminemment moral, puisque la lutte contre l'imprévoyance, c'est une lutte de tous les instants des gouvernements depuis le début du 19e siècle. Donc, les pratiques d'aventure qui s'inscrivent dans le cadre du tourisme contemporain, elles reproduisent en réalité des modèles qui sont des modèles politiques et moraux qui sont parfaitement acceptables par l'immense majorité des sociétés et des idéologies contemporaines. Ça n'est pas ce qui s'était passé à partir de la seconde moitié du 19e siècle, quand justement on a fait de l'aventure précisément autre chose que cela. Et derrière cette aventure, ce que vous voyez très très bien quelqu'un comme Stevenson, par exemple, dans les années 1870-1880, quand il disait que l'aventure telle que lui l'exprimait dans ses livres, telle que lui l'exprimait pour une grande part dans sa vie, c'était un drapeau rouge. Et vous voyez bien tout ce que ça pouvait charrier comme image, le drapeau rouge de l'aventure.
Cet esprit d'aventure, Olivier Archambault, auquel vous évoquiez tout à l'heure, en disant finalement l'aventure est dans l'esprit, dans un état d'esprit, l'esprit d'aventure au XXIe siècle. Alors qu'est-ce que c'est, pour compléter, prolonger ce que vient de dire Sylvain Venner?
Alors c'est une question bien difficile, qui je crois répond aux exigences de chacun. C'est-à-dire que l'aventure est quelque chose de tout à fait personnel, je pense, aujourd'hui. Et il faut, donc, comme je disais un petit peu, il faut savoir regarder notre société avec un petit décalage suffisant pour pouvoir construire sa propre aventure et sa propre vie. Quelle est la différence? On parlait tout à l'heure de voyagistes, en fait, hein, de gens qui mettaient l'aventure au service de quelques-uns. Il suffit donc de payer pour pouvoir accéder à l'aventure. Est-ce que ça, c'est de l'aventure? Je ne le crois pas. L'aventure, c'est d'abord construire quelque chose. Quand on part comme Magellan, ou quand on part comme même Rimbaud, quand on part comme Monfray, on construit sa propre vie. C'est là, je crois, le départ de l'esprit d'aventure. C'est se mettre en position de se créer un nouveau réel, de construire sa propre vie, et s'il est possible d'en faire une profession... C'est ce que je regarde le plus souvent à la Société des explorateurs français, c'est de faire de sa vie une aventure, c'est-à-dire de construire son activité de vie, son activité d'homme ou de femme, autour du principe d'aventure et de construction de la vie par rapport au reste qui serait le sédentaire, la personne qui a une vie entre guillemets normale et qui d'ailleurs achète sa part d'aventure quand il part en vacances, ce qui est très différent.
Alors pouvez-vous, Olivier Archambault, nous donner quelques... Comment dire, évoquer quelques personnes vivantes et concrètes qui, pour vous, aujourd'hui, mettent en pratique cet esprit d'aventure.
Mais tout à fait. On a, par exemple, des écrivains voyageurs, aujourd'hui, comme Sylvain Tesson, par exemple, qui vit son aventure et qui la traduit par le livre et par l'écriture. On a des gens comme Patrice Franceschi, par exemple, aussi, qui a fait de sa vie à travers le pilotage de Tour du Monde en ULM, par exemple, la construction de la boudeuse et de ses différentes aventures qui ont été filmées et passées sur France 5 il n'y a pas si longtemps. On a des gens comme Jean-Louis Etienne, on a des gens comme les cosmonautes français qui ont fait de leurs études et de leur vie une véritable aventure qui est absolument incroyable. Ce sont des vies d'aventure.
Alors, vous avez dit tout à l'heure aventurier et aventurière, et là, vous n'avez évoqué que des aventuriers.
Mais j'aurais pu dire Claudie Aigneret au lieu de Jean-Loup Chrétien. J'aurais pu dire, pour les spationautes, pardon. Pour les écrivains voyageurs, on peut dire Ella Maillard ou des gens comme ça. Plus proche de nous, Priscilla Telmont a écrit aussi quelques opus, des choses comme ça. On a véritablement un choix de vie.
Et du côté des navigateurs ou des navigatrices?
Mais on a aussi des gens, Jean-Louis Etienne a navigué un petit peu, Franceschi a navigué un petit peu, Maud Fontenoy a navigué également et a écrit. Et on a des gens qui sont pas directement peut-être des aventuriers, mais des gens qui construisent de vraies aventures, comme Tara par exemple, ce fameux navire océanographique qui est une très belle aventure maritime.
Maritime et scientifique. Alors, s'agissant d'aventurières, je vous propose d'entendre le témoignage de Karen Guillorel qui a publié il y a peu de temps l'ouvrage suivant, De l'aventure au voyage intérieur. Je trouve que le titre est très évocateur, De l'aventure au voyage intérieur, Paris, Istanbul, Jérusalem. C'est paru aux presses de la Renaissance au tout début de notre décennie. Et l'extrait que nous allons entendre là est un entretien accordé à Marie-Pierre Planchon dans l'émission Partir avec. C'était sur France Inter le 14 novembre 2011.
Tout d'un coup, je crois que j'ai acquis ma liberté à ce moment-là. Le monde s'ouvrait à moi avec tous ses possibles. Ce que je vivais au quotidien, parce que l'enfance a ses beautés, mais c'est quand même quelque chose de très contraint. On est dépendant de ses parents, on est dépendant des adultes. Donc le voyage, pour moi, c'est synonyme de ça, de tous les possibles. Mm-hmm. C'est possible de partir de sa base, de son quotidien rassurant, pour aller vers autre chose et qui, de manière initiatique, nous fait grandir sans cesse. Et je pense que j'ai eu de la chance de le découvrir très jeune. Je pense que je savais très peu de choses de ce monde. Je m'attendais pas à découvrir certains aspects sombres. Mais c'était tellement important, ce voyage, de garder le fil était vital pour moi. Et j'ai préféré traverser les épreuves que de m'arrêter. Je me pose parfois la question de savoir si j'ai eu raison. Au final, je suis très heureuse, je suis arrivée à bon port. Je suis entière, j'ai traversé tout ça et puis je me sens bien dans mes pompes. Mais c'est vrai que des fois, j'ai frôlé un peu la catastrophe.
France Culture, Planète Terre, Sylvain Kahn.
Sylvain Venner, donc Karen Guillorel qui nous livrait son témoignage a fait son voyage à pied, donc Paris, Istanbul, Jérusalem. La notion de risque semble très importante, mais j'ai quand même envie d'abord de vous demander si pour vous il y a une différence entre les aventuriers et les aventurières.
Oui, enfin, historiquement, bien sûr. C'est-à-dire que ce qu'on vient d'entendre, c'est un propos qu'on aurait pu entendre il y a un siècle ou un siècle et demi dans la bouche d'un homme et qui aurait davantage sans doute paru incongru dans la bouche d'une femme. Disons, on n'en est plus du tout là aujourd'hui, bien entendu, mais je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui, le fait que ce soit une femme qui le tienne ou un homme, ça nous permet d'analyser différemment le discours, si vous voulez.
Pour vous, l'aventure n'est pas genrée en ce début du XXIe siècle?
Bon, je peux pas dire les choses comme ça parce qu'il reste beaucoup de, travail à faire et pas seulement dans ce domaine-là, dans beaucoup de domaines pour arriver à l'égalité entre les hommes et les femmes. Mais je ne suis pas sûr que ce soit une revendication très importante. Si vous voulez, je peux vous donner un exemple sur un personnage que je connais mieux, que ça se passe dans les années 1880. Il s'agit d'une femme qui s'appelle Jeanne Dieu la Foi, qui est une archéologue qui participe avec son mari aux fouilles de Suse. Et elle, contrairement à son mari, elle écrit des... Parce que elle écrit des récits de ses aventures. Et je voudrais revenir là-dessus parce qu'il y a quand même, dans les exemples que donnait Olivier Archambault tout à l'heure, une caractéristique majeure. C'est que finalement, quand on parle des aventuriers ou des aventurières, on parle toujours de gens qui ont écrit. Ce qui fait qu'il ne faut pas minimiser cette affaire-là, c'est-à-dire que dans la façon dont on se représente, nous, ce qu'est un aventurier ou ce qu'est un aventurière, l'acte d'écriture joue un rôle majeur. On pourra toujours dire que, et je suis historien, donc je veux bien entendre ce discours, on pourra toujours dire que forcément on parle des gens qui ont écrit parce que ceux qui n'ont pas écrit, ben, ils n'ont pas laissé de traces, mais il n'empêche que dans la façon dont on transforme sa propre expérience en discours, il se joue quelque chose qui... est essentielle dans la signification de l'aventure. Alors si on reprend cette Jeanne Dieu la Foi, elle écrit ses histoires qui se passent en Perse dans les années 1880, elle publie ça dans un grand journal illustré d'époque qui s'appelle Le Tour du Monde. C'est une femme très originale, elle porte un pantalon à une époque où c'est un geste politique fort, elle a des cheveux coupés courts alors qu'on est bien avant la mode de la garçonne, et au final... par rapport à son mari, c'est elle qui endosse les habits excentriques, insolites de l'aventure. Là où son mari va être plutôt, Marcel, du côté de la science archéologique. Le résultat, c'est que les travaux de Jeanne Dieu la Foi sont plutôt mal reçus par les archéologues de son temps. Il y a deux interprétations qu'on peut faire de cet épisode-là. Le premier, c'est de dire « Ah oui, on reçoit mal les travaux de Jeanne parce que c'est une femme ». Et que l'archéologie, ça reste à l'époque un métier d'homme. Et je ne dis pas que ce n'est pas vrai, hein. Il y a sûrement une part de vérité. Mais il y a une autre interprétation qui consiste à dire « Mais les archéologues de cette époque-là, ça commence justement à être des gens qui travaillent en cabinet, dans des institutions qui sont des institutions savantes, et qui trouvent que tout le battage que fait Jeanne autour de ses pantalons, ses cheveux courts, ses aventures en Perse, c'est le contraire ». De la science. C'est l'aventure telle que la présentent les journaux illustrés à cette époque-là, le journal des voyages, le tour du monde, les romans d'aventure pour enfants qui se multiplient, et ça n'est pas la véritable science. Et au fond, elle est méprisée par les archéologues, alors peut-être en partie parce qu'elle est une femme, ça a sans doute beaucoup joué, mais pas seulement. Aussi parce que justement, elle est dans ce monde du discours, ce monde des images, ce monde médiatique qui est aussi le monde de l'aventure.
Alors qu'aujourd'hui, on peut avoir le sentiment que c'est tout l'inverse maintenant, non, Olivier Archambault ?
Je crois que les gens dont on parle, ceux qui écrivent quand ils reviennent d'une grande aventure, ou qui disent, par le film par exemple, ce qu'ils ont vécu, je crois qu'il y a aussi une notion de moyens, c'est-à-dire que depuis très longtemps, on a besoin de vivre pour faire ses aventures. Et une des manières de pouvoir vivre ses aventures, c'est donc de s'autofinancer en vendant sa propre vie. Il y a dans l'histoire de la Société des explorateurs français quelque chose d'assez étonnant. Au début de la télévision, dans les années 50, il y avait une émission mensuelle, je crois, qui s'appelait « Les écrans de l'aventure », où il y avait l'ensemble des gens qui vivaient de ce métier d'aventurier. Il y avait Charcot, Paul-Émile Victor, Charcot n'était plus là, mais Paul-Émile Victor, il y avait tous ceux qui faisaient le réseau de connaissances du monde, qui, par leurs films et leurs récits, vendaient une sorte d'aventure. Et ça, je crois que aujourd'hui encore, si on veut exister dans ce monde, il faut le faire savoir. Et forcément, ça passe par les codes commerciaux de l'époque.
Vous avez évoqué... tout à l'heure, Olivier Archambault, le fait que l'aventure était un espace de liberté. Est-ce que ce que vous venez de dire à l'instant vous paraît lié à cette appréciation que vous portez sur l'aventure comme étant un espace de liberté ? Et j'ai peut-être que je vais interpréter ou extrapoler, mais j'ai cru comprendre ou entendre un des rares espaces de liberté.
Oui, un des rares espaces de liberté pour ce que l'on appelle les aventuriers. Parce que l'espace de liberté aujourd'hui est très contraint, même physiquement. Regardez, nous, on a, en tant qu'Européens, Américains ou d'idées, dans les pays développés, nous avons des passeports qui nous permettent d'aller quasiment partout. L'inverse n'est pas vrai. quelqu'un qui est africain, qui est certains pays d'Amérique centrale, etc., ont les pires difficultés à voyager. L'espace de liberté n'est pas le même pour tous, déjà. Ça, c'est très important. Ensuite, le fait d'en faire son métier, de voyager, permet cette liberté et aller au contact de la zone qui est la moins connue. C'est le reporter, c'est l'écrivain voyageur. Et on a là, ou le géographe même parfois, ou le scientifique, on a là une limite qui est le connu et le non connu. Mais le dénominateur commun, je dirais, de tous ces personnages, à part peut-être les gens comme les cosmonautes ou les astrophysiciens, qui sont des entre guillemets fonctionnaires de l'aventure, puisqu'ils sont payés par l'État pour réaliser leurs rêves, ce qui est quand même quelque chose de très important, les autres sont toujours privés, entre guillemets. Donc ils ont besoin de cette source de revenus, de cette reconnaissance médiatique pour pouvoir continuer. C'est ça qui est important. Et l'espace de liberté, effectivement, oui, je pense, se réduit.
Et vous, Sylvain Venner, qu'en pensez-vous de ce lien entre aventure et liberté?
Oui, c'est un lien extrêmement serré, puisqu'évidemment, l'aventure a toujours été pensée comme ça, avec cette idée que, enfin, toujours été pensée comme ça depuis qu'elle est devenue une valeur susceptible d'orienter toute une existence. Elle est pensée comme une résistance face à la marche du monde. Et cette marche du monde, on peut la penser en termes de restriction des libertés, on peut la penser en termes d'uniformisation aussi, on peut la penser en termes de cadastrage, comme disait Sandra Ars, du monde. Tout ça, c'est vrai. Après, il n'en reste pas moins que depuis la seconde moitié du 19e siècle jusqu'à aujourd'hui, et le témoignage qu'on a entendu est exactement dans cette ligne-là, l'aventure est pensée comme quelque chose d'étroitement individuel, puisque ce dont il s'agit, c'est de se, comme l'a dit Olivier Archambault tout à l'heure, c'est de se réaliser soi-même. Et ça, alors ça pose pas mal de problèmes. Ça pose des problèmes par rapport à ce que peut être l'idéal de la science. Est-ce que la science telle qu'elle est devenue quelque chose d'extrêmement important dans notre culture commune depuis le XVIIe siècle, est-ce que ça s'accompagne de la réalisation de l'individu, ou est-ce qu'au contraire l'individu doit se dissoudre dans un savoir global comme on pouvait le penser également? Ça pose un problème moral, puisque, comme vient de le dire Olivier Archambault également, effectivement, cette marge de liberté dont il parlait, elle n'est pas du tout la même pour ceux qui décident de vivre des aventures et pour ceux qui subissent des exils ou des voyages, comme on en a eu, on clôt l'année 2015 sur une séquence épouvantable de ce point de vue-là. Et on peut aussi parfaitement admettre que d'autres vont se réaliser précisément dans d'autres pratiques que celles qui consistent à partir, et peut-être de façon plus utile ou plus morale, au sens où la morale englobe la totalité de la collectivité, dans des pratiques contraires même, ou en tout cas parallèles à celles du départ, qui sont les pratiques de l'accueil.
En tout cas, je vous propose, vous l'aviez d'ailleurs, et vous aviez évoqué son nom tout à l'heure, Sylvain Venner, je vous propose d'entendre un court extrait d'un entretien que Joseph Kessel avait accordé à la radio française. Là aussi, c'est une archive non datée qui avait été diffusée dans l'émission Hors Champ de Laura Adler le 7 avril 2011. Il était interrogé sur son roman Les Cavaliers, et il me semble que ses propos vont tout à fait dans le sens de cette individualisation de l'aventure et de la réalisation de soi dont l'un et l'autre, Sylvain Venner et Olivier Archambault, vous nous parlez.
Je parle de l'Afghanistan. Ça a été un coup de foudre. J'ai vu beaucoup de pays et d'aussi beaux. La vallée du Rift, par exemple, au Kenya, les montagnes et les défilés et les nids d'aigles du Yémen, où j'ai été en 1930, alors que très peu d'Européens y avaient été. Et enfin, beaucoup d'autres paysages, le désert syrien, le Sahara, partout, la terre est vraiment extraordinairement belle et variée dans sa beauté. Mais dans l'Afghanistan, il y avait cette beauté physique du pays, la beauté des habitants, surtout des montagnards, enfin tout ça, et puis peut-être des choses qu'on ne peut pas analyser, ont fait que c'est un pays qui, pour moi, est celui où j'ai été le plus à mon aise et en même temps le plus transporté hors de moi-même.
Le plus transporté hors de moi-même. On dirait que Joseph Kessel fait le lien entre l'aventure tout court et l'aventure intérieure, Olivier Archambault.
Mais c'est un petit peu ce qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire que l'esprit d'aventure et l'aventure est d'abord quelque chose de tout à fait personnel. Et c'est ce qui change un petit peu avec les aventures scientifiques. Aujourd'hui, une aventure scientifique ne peut être que collective, quasiment. On a parlé du robot en début d'émission, on peut parler de toutes les aventures qui se passent sous les océans, où ça demande tellement de moyens qu'une personne seule ne peut pas s'aventurer dans ces types justement d'exploration et d'aventure. À l'inverse, l'écrivain voyageur, le cinéaste même encore, l'expérience que cite Kessel, est tout à fait personnelle. Et ça peut être... Mis à part le côté rare maintenant de la découverte, quand Kessel dit « peu d'Européens ont mis les pieds dans telle ou telle contrée, notamment au Yémen », c'est une réalité à l'époque. Aujourd'hui, c'est totalement saugrenu d'essayer de trouver des lieux où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. C'est une évidence. Donc même si on va au fin fond de l'Amazonie, on aura des espaces, mais on n'aura pas de lieux que l'on pourra raconter aux autres comme une sorte de découvreur.
Et pour vous, Sylvain Venner, qu'évoque ces propos de Joseph Kessel ?
Ben, tout à fait ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire que quand il parle du Yémen, du Sahara, mais même aussi de ces grandes plaines des cavaliers et de l'Afghanistan, il y a un motif récurrent qui est extrêmement important, c'est le motif du désert. Or, ce qui se rejoue, si vous voulez, dans le fait de placer l'aventure au désert, c'est précisément toute cette vieille histoire de l'illumination. Cette idée que le désert, c'est le lieu de la rencontre avec Dieu, c'est le lieu de l'illumination, de la découverte de soi, de la découverte du monde, de la découverte de l'un, de la découverte de l'origine. Et il y a ce rêve, ou disons peut-être plus simplement cette théorie qui est portée par tous les romanciers de l'aventure, disons, entre les années 1870 et les années 1930, et Kessel arrive à la fin de cette histoire-là, en quelque sorte, qui fait qu'on va aller chercher dans l'aventure quelque chose qui est de l'ordre de la découverte mystique du monde. Or, le premier lieu de cette découverte, bien avant les océans, bien avant les hautes montagnes, bien avant tout ce qu'on veut, c'est le désert. Et c'est ce qui fait aussi que l'espace, aujourd'hui, est un lieu extrêmement attirant. Alors, avec toutes les ambiguïtés qu'a souligné Olivier Archambault, ce qui fait que l'espace, aujourd'hui, c'est un lieu dans lequel, qui ne peut produire qu'une aventure collective, là où le désert naguère, et surtout dans ce moment, second 19e, premier 20e, où on va le réinvestir par autre chose, par la mystique moderne de l'aventure, on pouvait en faire l'expérience seule.
Mais alors, que penser, du coup, Sylvain Venner, de ce film que nous avons évoqué tout à fait au début de l'émission, Seul sur Mars, le dernier film de Ridley Scott avec Matt Damon, où précisément, il y a à la fois, enfin, il y a un dialogue incessant entre l'aventure collective, en l'occurrence les équipes de la NASA, et puis un homme seul sur Mars, comme on pourrait être seul sur un désert, au temps où les déserts étaient encore vraiment coupés du reste du monde. Le fait que ça soit un film hollywoodien et qui ait connu un certain succès, vient-il pour vous signifier qu'il y a justement une demande du public, que cette description, cette évolution que vous venez d'indiquer s'infléchisse à nouveau ?
Alors, pour être franc, je n'ai pas vu le film. Si j'avais su qu'on en parlait, j'aurais essayé de le regarder. Mais oui, vous avez sûrement raison, même si je vais beaucoup me méfier, moi, de la notion de demande du public. C'est vrai pour l'aventure, mais c'est vrai pour beaucoup d'autres choses. Je pense qu'en fait, on fait rejouer d'anciens modèles. Ça a l'air de bien marcher, d'après ce que vous me dites, pour Seul sur Mars, où effectivement on va essayer de réconcilier l'ancien motif de l'aventure qui impliquait d'être seul face au monde, avec déjà énormément d'ambiguïté, parce qu'on ne peut pas dire que le fait d'être relié par télécommunication au reste de la Terre en attendant d'être sauvé, si je comprends bien ce qui arrive à Matt Damon.
Ce qui arrive à Matt Damon, c'est que pendant un temps, justement, il n'est plus relié au reste de la Terre et que la NASA le croit décédé.
Ben voilà, donc on se retrouve effectivement dans une aventure qui est apparemment contrainte par cette absence de liberté dont parlait Olivier Archambault, et on essaie de retrouver quelque chose de la liberté d'antan par une vacance de la technique. Or, cette idée que la vacance de la technique est le moyen de reproduire l'espace qui avait autrefois autorisé toutes les aventures, c'est pas une idée tout à fait neuve. C'est d'une certaine façon la panne d'avion de Saint-Exupéry dans le désert, dans Terre des Hommes, ou la panne d'avion de René Serre, là aussi, dans le désert, racontée par Kessel en Mauritanie à la fin des années 1920. C'est quelque chose qui s'est mis en place à peu près dans l'entre-deux-guerres. Et je le rappelle, au dépens de ce qu'avait été la réalité des voyages d'exploration autrefois. Puisque quand Monfred prétend qu'il est seul dans l'Éthiopie qu'il a bien connue, ou sur les rives de la mer Rouge, c'est en grande partie faux. Comme il le dit lui-même, il est seul au milieu de races hostiles. Et quand on fait toute l'histoire de l'exploration, à part quelques exceptions, comme le célèbre voyage de René Caillé dans les années 1820, les explorateurs sont toujours des gens qui partent avec des théories de porteurs. Ce sont souvent des colonnes entières qui partent en particulier explorer le centre de l'Afrique. Donc, cette idée que l'aventure, c'est l'aventure d'un seul, c'est majeur dans l'imaginaire de l'aventure. Ça ne correspond que imparfaitement à la réalité des pratiques.
Je voulais vous demander à l'un et à l'autre si vous pouviez éventuellement nous éclairer sur la raison pour laquelle, dans la langue française, aventure est également synonyme de liaison amoureuse, où là, par définition, il faut être deux. Olivier Archambault.
Écoutez, on a coutume de dire aussi souvent que la société des explorateurs, quand les gens s'en vont en aventure, il est bien clair que parfois, certaines personnes restent. C'est-à-dire le conjoint ou la conjointe, par définition, sauf ceux qui partent en couple, mais c'est quand même assez rare, quittent le domicile, même si c'est une sorte de presque, on va dire, de notoriété, de dire non, je suis brave, je suis fort, je suis capable de partir seul. Il est bien évidemment clair que les aventures amoureuses sont parfois mises à mal par l'aventure elle-même. Et quand souvent je pars avec mes étudiants, je leur dis, vous savez, si vous regardez les anciens, alors ils partaient pas de Roissy, ils partaient plutôt de ports célèbres, mais les aventures commencent là où on prend le bateau ou là où on prend l'avion. Et je vous conseille, très chers étudiants, de ne jamais parler d'aventure amoureuse et personnelle, de ce qui arrive dans le voyage. Une fois que l'on part, on part, quand on revient, c'est un espace clos, et c'est peut-être pour ça que l'aventure amoureuse est si dissociée de l'aventure physique et de l'espace.
Et pour vous, Sylvain Venner ?
L'imaginaire de l'amour a partie liée avec le voyage. C'est vrai, vous parlez de l'aventure, mais on parle aussi des transports amoureux. On parle d'atteindre le septième ciel. De façon générale, au XIXe siècle, par exemple, quand on voulait moraliser l'amour, on parlait du mariage, qui donc devait durer absolument toute la vie, comme de la grande aventure. Cette idée, elle est structurante dans notre imaginaire et très probablement dans nos pratiques d'ailleurs. Il y a quelque chose entre la d'homologique, disons. Entre l'amour et le voyage. C'était ce qu'avait montré par exemple Alain Corbin quand il avait étudié les pornographes de la fin du XVIIIe siècle et la façon dont un des lieux privilégiés du roman pornographique, c'était la cabine de la diligence ou du fiacre. le fiacre de Madame Bovary, par exemple, au milieu du 19e siècle, puisque qui permet de conjuguer, comme par la suite, la cabine du transatlantique ou évidemment la cabine du train, qui a donné lieu là aussi à énormément de scènes, à la fois l'espace clos qui autorise la relation amoureuse et le voyage, le déplacement. Et ça n'est qu'un des éléments de cette homologie entre l'amour et le voyage, puisqu'après il faudrait traiter de tout ce qui relève de l'imaginaire de la rencontre, évidemment.
Ce qui pourrait faire l'objet d'une prochaine émission. Merci beaucoup Sylvain Venner et Olivier Archambault pour vos précieux éclairages. Je précise que les liens vers vos sites internet et vos publications sont accessibles depuis la page de Planète Terre sur France Culture. C'était l'aventure au 21e siècle, dernière émission planétaire de l'année 2015. En 2016, Planète Terre étrennera un nouvel horaire. Elle sera diffusée le mercredi, mais de 16h à 16h56, comme les 5 émissions de la tranche Culture Science, tandis que Nouvelle Vague de Marie Richeux sera diffusée à 14h. Luc-Jean Reynaud, Claude Niort, France Bleu Isère, Catherine Madur et la documentation sonore nous ont accompagné en régie et pour la préparation de cette émission qui est en ligne 1000 jours et en podcast un an comme toutes les autres. Demain à 14h, Aurélie Luneau présentera comme chaque jeudi la Marche des Sciences et pour le moment, place aux Bonnes Feuilles, le rendez-vous littéraire quotidien qui sera immédiatement suivi à 15h de Culture Musique proposée par Mathieu Garrigou-Lagrange.